Chers frères et sœurs, je crois qu'il y a quelque chose dont on ne mesure pas toujours l'importance dans notre foi chrétienne et qui en fait la valeur, c'est l'appel. Dans la première lecture, nous avons Jérémie qui est appelé par le Seigneur. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, je fais de toi un prophète pour les nations. Jérémie, Amos, les uns et les autres des prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres dans le Nouveau, sont comme arrachés à leur vie, une vie toute simple. On va greffer les sycomores pour Amos. On va être pêcheur pour les apôtres. Et on va se mettre en route vers une parole qui nous a appelés. C'est extraordinaire parce que cette parole, elle vient de Dieu. Et de ce fait, la vie prend une toute autre signification. Si nous comparons avec d'autres religions, c'est la seule, la religion chrétienne, où le Seigneur appelle personnellement et personnellement chacun d'entre nous. L'appel est absolument personnel et absolument universel. Et ce qui se passe, c'est que notre vie prend une plénitude de sens que rien d'autre ne peut atteindre. Le métier, par exemple. Nos métiers peuvent être passionnants. Nos métiers peuvent nous donner le sentiment de notre valeur, de notre utilité. Les relations humaines, également, peuvent être riches de sens, riches de consolation. Ou prenons encore même la rectitude morale, notre droiture. Tout cela est très bon. Mais tout cela est si peu par rapport à cette parole de Dieu qui nous appelle et qui nous dit « Je le veux, viens avec moi, sois mon collaborateur. » Si nous n'accédons pas à cette dimension, nous n'accéderons pas vraiment à notre humanité et à notre statut de personne. Maurice Zindel, ce prédicateur fameux du XXe siècle qui avait prêché à Paul VI, disait ceci, « Quand comprendrons-nous que nous sommes appelés à la grandeur ? Personne, il n'y a personne, l'homme n'est pas encore né. » Que voulait-il dire par là ? Tant que nous n'avons pas considéré cette relation intime qui nous permet d'être les collaborateurs de Dieu, eh bien, nous restons dans une certaine insignifiance. Et notre vie chrétienne peut pécher justement par ce manque de relations personnelles. Nous faisons ce que font nos amis, ce que fait notre famille en allant à la messe, en pratiquant. Mais où est la relation personnelle ? Où suis-je et quand suis-je ce collaborateur de Dieu absolument unique dont il ne peut se passer ? Pour étendre son royaume. Nous ne sommes pas que des rouages, nous ne sommes pas même que des célébrants, nous ne sommes pas simplement des hommes et des femmes de bien et qui tâchent de vivre selon leur conscience. Cela ne nous suffit pas. Et chers frères et sœurs, vous qui vous préparez au mariage, je me disais peut-être que la tentation est plus forte. Parce que le mariage étant cette vocation naturelle, eh bien on peut se dire, finalement, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je les élève selon la droiture, tout est bien, c'est vrai, mais ce n'est qu'une étape. Et je crois que les temps actuels sont un temps favorable pour percevoir et repercevoir la vocation du mariage comme une vocation, justement. une vocation, c'est-à-dire ce n'est pas simplement la nature qui nous pousse à nous marier, mais c'est Dieu qui nous y appelle, et cela change tout. Pourquoi cela change tout ? Parce que cela implique un haut degré d'intimité avec le Seigneur pour chacun, que nous soyons consacrés ou mariés. L'intimité avec le Seigneur ne doit pas suivre l'état de vie. Le pape Jean-Paul II disait que nous sommes tous appelés à un haut degré de vie chrétienne. Et j'aime à rappeler ce qui s'est passé durant les temps communistes en Russie. Le monachisme, vous le savez, avait été dans la plupart des cas et dans la plupart des endroits absolument interdit. Ce monachisme, vous vous souvenez, c'est ces moines orthodoxes, tout vêtus de noir, qui avaient ce sens d'une vie spirituelle et d'intimité avec le Seigneur et de la prière perpétuelle, si fort chez eux. Eh bien, est né un mouvement qu'on a appelé le monachisme blanc, par opposition à ce monachisme noir de ses frères vêtus de noir. C'était tous ces laïcs, tous ces pères et mères de famille, tous ces célibataires peut-être aussi, qui se disaient « Si nous ne pouvons plus vivre la radicalité de la vie chrétienne dans cet état de vie qu'est la vie monastique, vivons-la dans notre état de vie, là où nous sommes, avec la même exigence de don absolu à Dieu et de prière perpétuelle. » Notre monde a plus que jamais besoin de ce type et de cette qualité de vie chrétienne. Premier point, donc, cet appel qui nous fait échapper à l'insignifiance et qui colore notre vie d'une toute autre nature, d'une toute autre signification. Deuxième point, c'est que quand le Seigneur appelle, il consacre. Qu'est-ce que cela veut dire consacrer ? Il pose sa main sur nous et il nous donne les grâces dont nous avons besoin. Chers frères et sœurs, vous qui êtes mariés et pour ceux qui sont appelés aussi à ce sacrement, n'oubliez pas que le Concile Vatican II a redit que le mariage est une consécration, c'est-à-dire une mise à part pour une mission. Quand Dieu met à part, il confère cette grâce qui nous tire du monde d'une certaine manière pour nous consacrer à son royaume. Pourquoi cela ? Parce que bien souvent dans la vocation, nous sommes comme confrontés à nos limites. On est saisi par cette disproportion. Le Seigneur m'appelle à collaborer à son royaume et moi, je suis bien faible, bien pauvre, bien pécheur. Regardons Jérémie. Jérémie, c'était cette âme extrêmement sensible. Tout au long du livre de Jérémie, on a ce qu'on appelle les confessions de Jérémie, c'est-à-dire ces moments où son âme se répand en disant toute sa douleur, sa détresse. Et le Seigneur lui demande une mission terrible pour lui, d'être en contradiction avec son temps, en annonçant la ruine de Jérusalem et d'être taxé de prophète de malheur, d'être taxé de personne qui désespère et du coup d'être honni, d'être rejeté, d'être jeté dans cette citerne. Ce cœur sensible, Dieu va l'habiliter pour cette mission. Il va lui dire, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Je te donne cette fermeté absolue. Elle ne vient pas de toi, elle vient de moi pour que tu ailles jusqu'au bout de ta mission. Voilà, cette grâce du sacrement du mariage aussi parfois, elle vous habilite pour cette mission qui est la vôtre. La mission de pouvoir vous entendre comme couple, c'est tellement difficile par voie de dépasser nos impatiences. Mais le magnifique hymne à la charité que nous avons entendu dans la deuxième lecture, c'est cela. À chaque situation de combat, la grâce est donnée. L'amour prend patience. L'amour ne recherche pas son intérêt, comme c'est concret, On peut mettre sous chacune de ces qualifications de l'amour, eh bien, le plus quotidien de notre vie. Peut-être une petite remarque par rapport à ça. Il faudrait garder la charité. La charité prend patience. Pourquoi ? Nous avons trop souvent tendance à considérer que cette charité, c'est le fruit de nos efforts. Sois gentil, c'est ce qu'on nous a dit quand on était petit. Sois sage. Du coup, on se l'applique peut-être un peu plus tard. Or, cette charité, c'est un don. On sait bien que ça nous dépasse de supporter nos adolescents difficiles, de supporter peut-être un mari exténué par son travail et de mauvaise humeur. L'effort humain ne suffit pas. Il faut aller plonger dans la grâce de Dieu. C'est ça la charité. C'est une vertu qui nous vient du ciel. C'est pour cela qu'elle s'appelle théologale. On est trop moraliste avec tout ça. La première des attitudes par rapport à la charité, c'est de la supplier. C'est cette qualité de vie intérieure. Si nous n'avons pas de vie intérieure, nous n'aurons pas la charité. C'est très clair. On sera gentil un temps, et puis après on en aura assez. La charité permet de dépasser les limites parce qu'elle vient de Dieu qui est infini. Et cette charité, justement, eh bien, que va-t-elle faire ? Venant de Dieu, elle va faire en sorte que nous soyons témoins de cet autre monde, témoins du ciel, si je puis dire. Quand on voit un couple, une famille qui s'entend, quand on voit une communauté religieuse qui s'entend, on dit « ça ne peut pas venir de la terre ». 17 bons hommes que nous sommes qui tâchent de se supporter, voire de s'aimer vraiment, de réellement, même si c'est difficile, ben c'est le signe d'un autre monde. C'est le signe d'une force qui ne vient pas de nous. Autrement dit, c'est prophétique. Et la famille, petite église, je vous le rappelle que c'est une de ces définitions ecclésiola. Qu'est-ce que cela veut dire, cela ? C'est-à-dire qu'elle est la manifestation de Dieu au milieu des hommes, comme l'est l'Église. Eh bien, la famille est prophétique aussi. Une famille qui s'entend, ça veut dire que Dieu est au milieu d'elle. Et quand Dieu n'est plus, elle ne s'entend plus. C'est pour cela que combien de saints-pères ont dit, mais que les familles prient le chapelet ensemble. Et les relations seront transformées, puisqu'elles viendront d'en haut. Ce n'est pas de la piété à dessous. C'est très réaliste. Et dernier point, justement, cet aspect prophétique, d'ouvrir une fenêtre sur le ciel, que ce soit en communauté religieuse, que ce soit les familles, le monde n'en veut pas, très clairement. Il ne veut pas qu'une fenêtre soit ouverte sur le ciel. Quand j'étais petit, ma maman me disait que elle avait vécu la guerre, que durant la guerre, eh bien, il fallait absolument qu'aucune trace de lumière puisse être perçue par les avions et on était invité à peindre ces carreaux en bleu pour que rien ne filtre. Et dès qu'il y avait un tout petit ray de lumière, les Allemands montaient pour dire « éteignez tout de suite ». Voilà, la lumière ne devait pas percer. Eh bien, dans notre monde, la lumière d'en haut, elle ne doit pas percer non plus. Et qui la manifeste est mal vue. Jérémie, vous voyez, on ne veut pas de sa parole. Le Christ, dans l'Évangile, on n'en veut surtout pas. Et on veut le lapider à la fin. Parce qu'il est témoin d'un autre monde. On veut bien être correct, mais on ne veut pas de Dieu. Cet refus de cette dimension prophétique, eh bien, c'est un refus de la dépendance de Dieu. Un refus de dire, pour être pleinement ce que tu as besoin de la grâce de Dieu. On n'en veut pas. L'homme se suffit à lui-même, le transhumanisme, il peut se perfectionner, se bricoler tant qu'il veut, ça ne pose aucun problème. Mais dût-il faire appel à la grâce, on ne veut pas de cette option-là. Alors, du coup, nous sommes tous tentés, face à ces critiques, d'une certaine médiocrité, de rentrer dans le moule, de ne plus faire mystère, de ne plus être en contradiction. Regardez par exemple l'intégrité morale dans le travail. Combien de personnes, parfois, ont perdu leur travail parce que, justement, elles voulaient rester intègres à leurs principes moraux. Vous qui êtes professionnel, vous savez bien que ça se pose très souvent, ces difficultés-là. Est-ce que j'accepte d'être en contradiction avec le monde sur ce point-là? Le fait d'avoir des enfants, c'est un scandale aujourd'hui. Vous savez que certains politiques qui ont beaucoup d'enfants deviennent la risée de la classe politique en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec tous ses enfants, avec ses 8 enfants ?» Etc. Et vous-même, vous êtes peut-être confronté aussi à ces critiques. C'est une critique qui vient aussi du fait que vous croyez en la vie, que vous croyez que le Seigneur soutient notre monde. Le Saint-Père le disait aux familles italiennes. Cet hiver démographique est le signe aussi d'un monde qui ne croit plus en avenir parce qu'il ne croit plus en Dieu. Et le fait, à nouveau, de pouvoir mettre des enfants au monde, c'est un acte d'espérance, un acte de charité, un acte de foi qu'on proclame à la face du monde et parfois dont le monde ne veut pas. Donc tenons bon, chers frères et sœurs, c'est trop beau tout cela. Et c'est ce qu'on peut demander aujourd'hui les uns pour les autres. Et vous voyez, le fruit de tout cela, c'est ce qu'on a fait dans le psaume, c'est la louange. La louange parce qu'on est dans une dynamique de vie et à ce moment-là, effectivement, la joie sort de notre cœur. Eh bien, demandons à la Sainte Famille de Nazareth qu'elle nous aide à demeurer dans cet état de générosité et de louange.